Et pour savoir si ces comparaisons historiques sont fondées ou non, nous sommes en compagnie d'un journaliste, Daniel Schneiderman. Bonjour, vous êtes directeur de la publication d'Arrêt sur image et vous publiez au Seuil l'ouvrage Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. À côté de vous, une historienne, Annette Becker. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université de Paris-Nanterre, vice-présidente du centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre et vous avez notamment publié Messager du désastre, Raphaël Lemkin, Yann Karski et les génocides publiés chez Fayard et Voir la Grande Guerre, un autre récit paru aux éditions Armand Collin. On va parler du point Godwin, Annette Becker, mais avant, il y a donc eu un appel signé par plus de 500 historiennes qui déplorent le manque de parité au sein de la discipline. Vous l'avez signé, expliquez-nous pourquoi.
Oui, je l'ai signé immédiatement parce que c'est quelque chose que je ressens depuis très longtemps. Et il me semble que le problème est en particulier un problème d'âge. C'est-à-dire que les historiens, vers 35 ans, 40 ans, on les voit. Mmh. Les historiennes, il faut attendre qu'elles aient 60, 65 ans, l'âge de la retraite. C'est le cas d'Arlette Farge, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est le cas de Michel Perrault. C'est le cas de Mona Ozouf. Voilà les grandes historiennes. Et elles le sont. Mais elles l'étaient quand elles avaient 35 ans ou 40 ans. Mais là, elles n'avaient absolument pas de place.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que dans notre discipline, mais c'est vrai aussi en droit, c'est pas spécifique à l'histoire, mais c'est en tant qu'historienne, on peut peut-être essayer de l'expliquer, il y a un très fort paternalisme. Moi, je le ressens personnellement quand je vois des biographies de femmes historiennes. Mmh. On dit toujours qui est le père ou qui est le mari. Quand on voit des biographies d'hommes historiens, on ne demande pas qui est le père ou le mari, ou la femme, ou pas la femme, on s'en fiche. Mais pour les femmes, il faut le resituer dans l'ordre patriarcal. C'est quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Et alors vous, par exemple, dans votre trajet, Annette Becker, qu'est-ce qui vous a fait rager ? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme expression de ces freins, justement, à la publication de vos travaux, à vos promotions et à vos différentes avancées dans l'université?
Alors, je dois dire que pour ma part, j'ai eu la chance de travailler avec des hommes qui ne faisaient aucune différence entre les hommes et les femmes. Et me plaindre de ma position serait totalement ridicule. Mais je vois mes jeunes collègues qui très souvent sont bloqués. Ce qui est très net, puisqu'on est ici dans un grand média culturel, c'est que les femmes passent moins dans les médias. Ça, c'est très net. Et par exemple, si l'on pense aux critiques historiques des grands journaux français, ce sont des hommes, j'ai vérifié, systématiquement, depuis l'origine. Dans Le Monde, dans Libération, mmh, dans Le Figaro, ce sont des hommes qui sont les critiques d'histoire. Ce ne sont jamais les femmes.
Et alors, aujourd'hui, que demandent ces historiennes ? Donc, plus de 500 historiennes ont signé un appel pour plus de parité au sein donc, de votre discipline, l'histoire. Annette Becker, qu'est-ce que vous réclamez ?
Moi, je réclame simplement qu'on applique la loi. Parce qu'il y a une loi sur les parités. Dans les conseils où on élit nos pairs, PAI, par exemple, il suffit de le faire systématiquement et de pousser à ce que la loi soit tout simplement adaptée à chacun des cas. Et puis il y a une chose, et je me souviens d'avoir été un jury très important pour un poste que je ne citerai pas plus parce que sinon on comprendrait, mais il y avait une de mes collègues, de mes jeunes collègues, que je ne connaissais pas avant d'avoir vu le dossier. Elle avait 4 enfants. Et elle était jeune, elle n'avait même pas 40 ans, elle avait 4 enfants. Évidemment, elle était en compétition avec un homme. Et lui, il avait peut-être des enfants, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, il ne les avait pas faits. Et le résultat, c'est que son dossier était plus gros. Et je me suis battue. J'ai dit, en effet, son dossier est plus gros, mais là, on doit faire une exception. Et ça a été refusé. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce genre de choses, y compris pour des femmes qui n'auraient pas d'enfants. D'ailleurs, ce n'est pas le nombre d'enfants qui doit expliquer les choses. Mais il est sûr qu'il y a des freins et que pour les jeunes femmes, c'est important. On ne compense qu'après 60 ans. Ce n'est pas normal.
Tout autre chose, Annette Becker, vous qui êtes historienne, tandis que les livres tombent, mais c'est pas grave, on va les laisser par terre. Nous sommes en direct de ces 21e rendez-vous de l'histoire de Blois pour parler d'histoire, Annette Becker, pour parler d'histoire des années noires. Il y a une expression qui aujourd'hui est passée dans le langage courant, celle de Point Godwin, une évocation du nazisme, une évocation d'Hitler pour expliquer, ou ne pas expliquer d'ailleurs, une situation qui est celle qui porte sur un point d'actualité, qui porte sur l'arrivée ou la montée des populismes. Et en lisant le livre que vous avez consacré au messager du désastre, je me suis rendu compte, Annette Becker, que finalement, le point Godwin, ou en tout cas l'idée de comparer des situations historiques, elle était par exemple omniprésente en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'agissait de comparer avec la guerre de 14-18.
Oui, je crois que c'est un point extrêmement important. En histoire, il y a deux choses qui comptent. Il y a le temps et il y a l'espace. Et le temps entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième est extrêmement réduit. C'est un temps extrêmement court. Et ce sont les mêmes hommes et femmes qui ont vécu la Première Guerre mondiale ou qui étaient enfants pendant la Première Guerre mondiale et donc qui en ont entendu parler par leurs parents, ils ont été élevés soit dans le culte de l'héroïsme de la Première Guerre mondiale, soit dans le rejet et dans le pacifisme. Et ce sont tous ces êtres qui se retrouvent devant la situation extraordinaire qui est celle de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, puis de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a voulu depuis le début, qu'il a voulu comme une revanche, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Je crois qu'il faut pas mêler les choses. Et ce qui est très frappant et ce qui a été un peu au cœur dans mon travail, c'est que comme spécialiste de la Première Guerre mondiale, j'avais beaucoup travaillé sur les points qui étaient justement obscurs dans la Première Guerre mondiale. Et un des points obscurs de la Première Guerre mondiale, c'était les atteintes contre les civils et les atteintes contre des peuples particuliers. Alors évidemment, la plus grande attaque dans la Première Guerre mondiale contre un peuple, c'est l'attaque des Turcs ottomans contre les Arméniens. Et on n'avait pas de nom pour dire ce qui s'était passé. On disait extermination, annihilation.
Est-ce que justement, lorsque Hitler arrive au pouvoir, lorsque les menaces de guerre se précisent, est-ce qu'on nomme par exemple le génocide arménien ? Est-ce que c'est un événement historique, Annette Becker, que l'on a en mémoire ?
Oui, oui et non. On a en mémoire, on ne peut pas l'appeler génocide puisque le mot n'existe pas. Mais on a en mémoire que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une extermination de ce peuple. Sauf que on a beaucoup parlé de cette extermination pendant la guerre elle-même. Parce que pendant la guerre, utiliser la barbarie de l'ennemi, c'est utile pour son combat. Une fois que la guerre est terminée, les Arméniens, on s'en fiche. Et d'ailleurs, la preuve parfaite, c'est qu'en 1923, on donne aux héritiers de l'extermination, on leur donne la Turquie. Le traité de Lausanne vient casser les traités suite à la Première Guerre mondiale. Et donc, on voit bien là qu'on a oublié. Les seuls qui n'ont pas oublié, c'est les Arméniens eux-mêmes, qui continuent à vivre dans l'horreur de ce qui est arrivé. Et puis, ceux qui n'ont pas oublié, c'est ceux qui pensent en profondeur, et c'est en particulier celui qui va, par la suite, inventer le mot génocide, donc Raphaël Lemkin.
Mais alors, comment l'historienne que vous êtes juge justement ce point Godwin, le recours à un passé noir pour expliquer le présent ?
C'est pas un recours au passé noir pour expliquer le présent. C'est une volonté de comprendre le passé. Ce qui n'est pas la même chose. Et je crois très important de penser que dans les oublis, il y avait aussi des inventions. Et c'est les inventions de fausses atrocités qui ont fait que, des atrocités de nouveau, on nous a fait le coup pendant la Première Guerre mondiale, on ne va pas encore croire à des atrocités. Et c'est cela le cœur de mon livre, expliquer ce qui était vrai dans les atrocités. L'extermination des Arméniens, les pogroms contre les Juifs et ce qui était faux.
Daniel Schneiderman, vous publiez Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler au seuil. Vous êtes journaliste. Ce point Godwin, comment le jugez-vous en tant que journaliste ?
D'abord, je crois qu'il faut reconnaître que le, comment dire, le rappel de l'épisode nazi et de l'épisode hitlérien, il est en chacun de nous permanent et omniprésent. On n'y peut rien, ça vient tout de suite. Vous pensez à Salvini en Italie, vous pensez à Orban en Hongrie, vous pensez à Bolsonaro au Brésil. J'écoutais à l'instant votre revue de presse internationale à propos d'un schisme dans l'Église orthodoxe. J'ai entendu le mot nazi, hitlérien. Donc ça revient sans arrêt. Donc je pense que quand on a comme métier, comme moi, d'essayer de donner du sens à tout ça et de réfléchir sur tous ces phénomènes actuels, je pense qu'il ne sert à rien de chasser avant tout examen toute possibilité de comparaison. Vous pensez aux migrants en Méditerranée. Immédiatement reviennent les images sur lesquelles commence mon livre.
Alors justement, il faut rappeler du Saint-Louis. Le Saint-Louis, c'est un navire qui transportait des Juifs en 1939. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Mille Juifs allemands et autrichiens fuient l'Allemagne. Ils pensent qu'ils vont pouvoir s'installer aux États-Unis. On leur a donné des assurances. Et puis finalement, ils arrivent à Cuba. On les laisse pas débarquer aux États-Unis. Il y a 10 jours pendant lesquels le Saint-Louis fait des ronds dans l'eau au large des côtes américaines. Et finalement, les 1000 Juifs sont renvoyés en Europe. Et après bien des tractations qui rappellent là encore l'époque actuelle, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne vont se partager les réfugiés.
Alors, partie de ces réfugiés vont périr dans les chambres à gaz.
Et à peu près un tiers d'entre eux. Alors, ces réminiscences, elles reviennent forcément. Bon, il faut les accepter.
Et justement, vous faites quoi en tant que journaliste? Parce qu'on va vous dire, bon, mais l'Aquarius, ils ont été sauvés, on n'est pas dans la même situation qu'en 39, et encore moins dans la même situation qu'en 42.
Évidemment qu'on n'est pas du tout dans la même situation, et c'est la raison pour laquelle il faut essayer d'examiner, si vous voulez, les éléments de comparaison pertinents, ceux qui fonctionnent, et puis ceux qui ne fonctionnent pas du tout, ceux qui font que les situations sont très différentes. Et je pense qu'un des rôles du journaliste, quand il essaye de se servir de l'histoire comme support de son travail, c'est d'essayer justement de faire ces deux colonnes. Voilà, là oui, il y a des trucs qui ressemblent. Voilà, qui rappelle. Et puis là, non, on n'est pas du tout dans la même situation, on n'est pas du tout dans le même contexte. Voilà.
Le point Godwin, c'est aussi une bonne manière de faire du sensationnalisme, Daniel Schneiderman. C'est-à-dire, on est certain que si on compare avec le nazisme, on va attirer plus l'attention. Et peut-être est-ce une manière de faire qui est beaucoup trop sensationnaliste et pas assez finalement fidèle aux faits.
Nous parlons des journalistes sérieux. Nous parlons pas des journalistes de marché. Et je pense justement que si un professeur de droit, il s'appelle Godwin, a inventé ce point Godwin, et si les internautes s'en sont emparés, c'est en réaction contre ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est en réaction contre une tendance qui pourrait être celle de médias commerciaux à faire du sensationnalisme en mettant Hitler à la une. Et ça, c'est très bien. Mais en même temps, faut pas se laisser paralyser, tétaniser par la terreur de faire un point Godwin. La comparaison, elle vient, c'est comme ça.
Annette Becker, elle vient chez vous aussi, cette comparaison?
Je crois qu'on fait le même métier, mais à l'envers. Moi, je commence pas à regarder le présent pour comprendre le passé. Moi, je vais dans les archives et j'essaye de comprendre ce que les gens, à l'époque, comprenaient. Et en essayant de me mettre derrière eux, en eux, eh bien, après, ça pourra me servir peut-être pour comprendre le présent. Et je crois qu'une chose très, très importante pour comprendre ce qui se passe en 1933, puis en 1939, c'est de voir qu'à l'époque, personne ne pouvait penser, parce qu'ils avaient oublié les Arméniens en particulier, mais pas seulement, qu'on allait exterminer tout un peuple. Pourtant, c'était dans les mots d'Hitler. Bien sûr. Mais ce qui est dans les mots, on sait très bien qu'on lui donne que la valeur des mots. Et donc, il faut essayer de comprendre ce que pensaient ceux qui ont empêché de débarquer les gens du Saint-Louis. Et ne pas en faire un symbole abstrait, mais de comprendre ce qui était dans leur tête à ce moment-là. Mais qui est très difficile.
Je pensais, pardonnez-moi Annette Becker, je pensais qu'il n'y avait pas pire péché pour un historien que l'anachronisme.
Eh bien justement, c'est bien ce que je dis, ne surtout pas faire d'anachronisme. Et je crois que ces comparaisons entre le présent et le passé nous amènent forcément à l'anachronisme. Mais aller dans la tête de ceux qui vivaient cela, imaginez ceux qui sont aux États-Unis et qui disent plus de visa. D'accord ? ils le disent dans une situation qui est la situation économique, la crise, etc. Et qui est, il y a quelqu'un de dangereux qui vient de venir au pouvoir en Allemagne. Mais ça ne va pas plus loin que ça.
Enfin, il ne vient pas de venir au pouvoir.
Daniel Schneiderman.
En 39, ça fait 6 ans qu'il est là. En 39, ça fait 6 ans qu'il a installé des camps. Hein. Dachau est ouvert dès 33. Donc, même les dirigeants américains... et d'ailleurs, ce que je raconte...
Dans votre livre, Berlin 1933.
Ce que je raconte dans le livre, c'est que les dirigeants américains sont très bien informés. Par exemple, il y a au consulat des États-Unis à Berlin en 33, un consul général qui s'appelle Messerschmitt et qui fait des rapports fleuves au département d'État américain sur la barbarie nazie.
Et alors
au département d'État, on se moque de lui. On disait, il nous a encore fait une Messerschmitt, c'est-à-dire, il nous a encore fait un rapport de 40 pages, c'est-à-dire qu'on ne croit pas. On ne veut pas croire. On ne veut pas entendre. Alors, là où je rejoins...
Mais pardonnez-moi, Daniel Schneiderman, ça veut dire quoi ? On ne veut pas entendre. Si on se dit, ça ne peut pas être aussi grave que cela, ça veut dire, finalement, le sort des Juifs, on s'en fiche ?
Oui, c'est un peu tout ça. Et c'est aussi ce que disait Annette Becker tout à l'heure au début de la discussion. C'est aussi le fait que la Grande Guerre, elle est très proche et qu'on est encore traumatisé de la Grande Guerre. Bon, un des personnages que j'ai découvert, c'est un grand directeur de presse américain, le directeur du Chicago Tribune, le colonel McCormick. Donc, il a été colonel, il a fait la Première Guerre. Et lui, il est obsédé par la hantise que ça revienne. Il est profondément pacifiste. Et parce qu'il est pacifiste, il va atténuer, gommer, pastéliser les reportages de son envoyé spécial à Berlin en lui disant « Mais non, mais ça peut pas être aussi grave que tu le dis. » Voilà. Et donc, les reportages paraîtront gommés dans le journal.
Annette Becker.
Il faut pas faire de confusion. Pour tout le monde, il y a l'horreur de la guerre. Ça, c'est une chose. Et cette horreur de la guerre, elle va continuer tout le temps. Elle est là depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à 1945. Et pour la plupart des gens, en particulier à partir de 1939, c'est horrible la guerre. Et puis, il y a par ailleurs l'extermination de tout un peuple qui est le peuple juif. Et ça, c'est autre chose. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. La guerre, ils comprennent très bien. Ils ne comprennent pas que le peuple juif est visé.
Annette Becker, Voir la Grande Guerre, un autre récit chez Armand Collin, Daniel Schneiderman, Berlin 1933, aux éditions du Seuil. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va cette fois-ci tenter de comprendre ce que, malheureusement, nos aïeuls n'ont pas compris, pourquoi Hitler était un personnage difficile à comprendre pour eux, pourquoi les messagers du désastre, comme vous le dites, Annette Schneiderman, n'ont pas été écoutés. Annette Becker n'ont pas été...
Il faut toujours donner un nom d'homme à une femme, n'est-ce pas?
Bon, vous m'avez eu 8 heures sur France Culture. Nous sommes au 21e rendez-vous de l'histoire de Blois pour évoquer d'autres politiques passées. D'ailleurs, passées, on ne sait pas très bien. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la montée des périls hier, elle n'a pas été décryptée comme il le fallait. Elle n'a pas été décryptée en Allemagne. Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'une historienne, Annette Becker. Vous avez notamment publié Les messagers du désastre, Raphaël Lemkin, Yann Karski et les génocides. C'était chez Fayard. Et Daniel Schneiderman, vous êtes journaliste. Vous publiez Berlin 1933, La presse internationale face à Hitler, aux éditions du Seuil. Dans ce livre, vous expliquez dans quelle mesure la presse n'a pas pu, pas voulu, pas réussi à faire comprendre qui était Hitler. Et notamment, vous expliquez qu'il y avait énormément de correspondants de presse étrangers, jusqu'à très tard,
à peu près 200, dans
le Reich. Et ceux-ci écrivaient. Alors, ils écrivaient des brefs complètement contournés, incompréhensibles. J'en cite une. « Monsieur Gerloff, recteur de l'université Goethe à Francfort, a donné sa démission à la suite d'un dissentiment survenu avec les associations d'étudiants. La police a arrêté provisoirement le professeur Gerloff pour assurer sa protection. » Et il fallait comprendre quoi, Daniel Schneiderman, lorsque le lecteur lisait cela?
Il fallait comprendre, j'imagine, j'y étais pas, hein, mais il fallait comprendre qu'un groupe d'étudiants nazis avait fait irruption dans son amphi et lui avait montré la sortie et qu'il avait dû quitter son poste et l'université très vite. Et qu'à la suite de quoi, il avait été interné à Dachau, puisque ce fameux internement de protection, la plupart des premiers détenus dans les camps, comme à Sonnenburg ou à Dachau, Sochaux sont internés, nous disent les nazis, pour leur propre protection. Enfin, c'est ambigu, hein. On ne sait pas très bien si c'est pour protéger la société, l'État allemand, ou si c'est pour les protéger eux-mêmes. Le mot allemand est compliqué, est ambigu, c'est le même, c'est Schutzhaftung, donc on ne sait pas très bien. Bon, mais de fait, il se retrouve à Dachau. De fait, on a un prof juif qui est viré par ses étudiants qui se retrouve à Dachau. Alors, pour quelle raison c'est pas écrit comme ça dans les journaux? Parce que vous avez cité une brève, mais on peut en citer. Je veux dire, dans les premiers mois de l'hitlérisme, toutes les informations qui sont données sont rigoureusement incompréhensibles. Alors voilà. Alors on nous parle aussi de suicide. Tel industriel s'est suicidé. On ne sait jamais pourquoi. Les raisons sont jamais donné, et le lecteur est chargé de comprendre lui-même que la persécution a commencé dès les premières semaines de l'arrivée d'Hitler.
Pourquoi Daniel Schneiderman, ces journalistes n'ont-ils pas tout simplement expliqué ce qu'ils avaient sous les yeux ?
Il y a plusieurs raisons. Alors la première, c'est qu'ils craignent tout de même les rétorsions du régime. Alors, il n'y a pas de censure, hein. Quand les nazis arrivent au pouvoir, il n'y a pas de censure. Les journalistes écrivent ce qu'ils veulent. Mais cela dit, les journalistes qui dérangent et qui écrivent des choses qui ne plaisent pas sont expulsés du Reich. Hein. Il va y avoir une vingtaine d'expulsions entre 33 et 39. Ou plus vicieusement, si vous voulez, quand ils partent en vacances, Goebbels ne les autorise pas à rentrer en Allemagne quand ils reviennent de vacances. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces journalistes veulent rester en Allemagne. Ils veulent rester à Berlin parce que ils sont comme tous les journalistes. Il se passe un truc ils voient bien que c'est intéressant, donc ils veulent rester sur l'événement. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des germanophones. Et donc Berlin est le seul poste où ils peuvent vraiment exercer la plénitude de leur talent. Ils aiment bien ce pays, ils aiment beaucoup ce pays, ils aiment la culture de ce pays. Donc évidemment, ils sont à mille lieues de comprendre ce qui se passe et encore plus d'anticiper ce qui va se passer dans les années suivantes. Donc ils s'autocensurent. Dans la première année, en 1933, il y a une première expulsion, je le raconte, l'expulsion du correspondant américain du Chicago Daily News, Edgar Maurer, parce que lui, il a posé les mots sur ce qu'il voyait. Il a dit « c'est un régime de fous ». Il était expulsé en septembre.
Bon, alors, au moins, il y avait des images. Annette Becker, vous avez beaucoup travaillé sur les images. Que se passait-il à l'époque en matière iconographique, sachant d'ailleurs que les images, c'est le thème de ce 21e rendez-vous de l'histoire de Blois?
Non, je voudrais dire d'abord qu'il ne faut pas mélanger 33 et 41-42. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Au moment où Hitler arrive au pouvoir, bien que la campagne électorale, ou sa campagne, hein, commence, disons, je dirais, à partir de Mein Kampf, hein, donc on a eu le temps de s'intéresser à Hitler. Mais ce qui se passe dans l'Allemagne nazie et ce qui se passe ensuite dans l'Allemagne en guerre et au moment où commencent non pas les persécutions et les assassinats individuels de quelques juifs, mais commence l'extermination, ce n'est pas du tout la même chose. Et je crois qu'il faut faire très attention. Le livre s'appelle Berlin 33, mais il va jusqu'en 1945. Et ce n'est pas du tout la même situation. Donc je crois qu'il faut...
Il distingue bien les périodes.
Oui, oui, tout à fait. Mais quand le lecteur va voir Berlin 33. Donc j'ai sous les yeux un livre qui s'appelle « Les camps tragiques », qui est mis en livre un extrait de « Lecture pour tous » de 1934. Et il parle, Guillaume Ducher, il parle d'Arao dans des termes extrêmement explicites. Les photographies ont été retouchées, comme il est dit gentiment, donc on voit surtout du barbelé, on ne voit pas grand-chose. Mais il faut faire attention. À l'époque, on savait ce qu'était un camp de concentration. Des camps de concentration, il y en avait depuis la guerre des Bourgs. On savait ce que c'était.
Camp de concentration,
ça n'a rien à voir avec l'extermination. Non,
mais... C'est justement là-dessus qu'il faut, à mon avis, insister, Annette Becker. Il y avait une distinction. Est-ce qu'on comprenait la distinction? À partir de quel moment l'iconographie pouvait permettre de comprendre qu'il y avait quelque chose de fou, de tragique qui était en train de se dérouler
dans la main? Les images dont parle Annette Becker, pardonnez-moi, hein, je les ai vues, je les connais, puisque j'ai visité Dachau. Ce sont des images sur lesquelles on ne voit rien. on voit les détenus qui font leur lessive, on voit des détenus face à des Allemands, on ne voit rien. Et Annette Becker, je suis d'accord avec vous, il y a eu quelques reportages explicites. Mais vous lisiez la grande presse, vous lisiez Paris Soir, qui était le principal tirage de la presse de l'époque, on vous expliquait que les camps, c'était formidable. Les journalistes qui allaient visiter les camps, évidemment sous la supervision étroite de la Gestapo qui a été fondée à ce moment-là et qui guidait les visites de camps, interrogeaient des détenus qui évidemment parlaient sous contrainte et qui disaient oui, la nourriture est excellente.
Je voudrais qu'on passe directement à la période qui personnellement m'intéresse, parce que quand je parle de désastre, je parle du génocide, et je voudrais vous dire qu'à ce moment-là, des images, il y en avait. Parce que des gens comme Karski, au péril de leur vie...
Il faut rappeler qui était Karski.
Alors, Jan Karski, qui était un résistant polonais, qui était un résistant catholique, mais qui, avant de rejoindre Londres, puis les États-Unis, a visité, d'une part, le ghetto de Varsovie, et d'autre part, un camp transit vers Belzec, qui s'appelait Izbica Lubelska. Et... il a apporté des images.
On a justement un extrait de la voix de Jan Karski, Annette Becker.
They described to me what is happening to the Jews.
Ils me décrivaient ce qui arrivait aux Juifs.
Did I know about it? No, I didn't.
Étais-je au courant? Non, je n'étais pas.
They described to me first that the Jews.
Ils m'expliquèrent que premièrement, le problème juif était sans précédent et ne peut être comparé au problème polonais ou au problème russe ou à tout autre. Hitler perdra cette guerre. Mais il va exterminer le peuple juif tout entier. Comprenez-vous ? Les alliés combattent pour leur peuple, pour l'humanité. Les alliés n'ont pas le droit d'oublier que les juifs vont être totalement exterminés en Pologne et dans toute l'Europe.
Polish and European Jews, they were breaking down. They paced the room. They were whispering.
Ils arpentaient la pièce et chuchotaient à voix basse.
It was a nightmare.
C'était un cauchemar.
Le témoignage de Jan Karski sur le ghetto de Varsovie, c'était dans Shoah, le film évidemment, de Lanzmann en 1985. On l'a cru, Karski ?
Alors je serais beaucoup plus pessimiste que vous, monsieur.
Daniel
on a vu et on n'a pas cru. Vous dites qu'on n'a pas vu.
Non, on n'a rien vu.
Mais on a vu.
Les lecteurs de la presse, ceux qui lisaient le New York Times.
Les photographies du ghetto de Varsovie avec des morts de masse étaient dans toute la presse de Londres au mois de septembre 1942. N'importe qui à Londres pouvait le lire. Alors, je ne parle pas de la période avant la guerre, mais pendant la guerre, en Angleterre.
Alors, qu'est-ce qu'on disait à l'époque, Annette Becker ?
On ne comprenait pas ce qui se passait, et parce qu'on ne comprenait pas, on ne voulait pas le croire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu. Je suis bien plus pessimiste que vous. On a vu et on n'a pas cru.
Alors, d'abord, je crois qu'il faut vraiment, vous aviez raison, Annette Becker, de le dire, il faut vraiment essayer d'éviter les confusions. Le ghetto de Varsovie, c'est pas Auschwitz. Je veux dire, la vraie image qui va faire prendre conscience à la population mondiale de ce qui s'est passé, ce sont les photos de la libération des camps. Elles arrivent au début 45. Elles n'arrivent pas avant. Alors, évidemment, avant, on voit des choses, on voit des atrocités, comme on dit. C'est vrai, des photos du ghetto de Varsovie. On entend parler de concentration, mais évitons, encore une fois, les anachronismes. Dans les années 30, quand on parle de camp de concentration, je veux dire, le mot n'a pas la connotation absolument épouvantable qu'il a aujourd'hui. Le camp de concentration, c'est le camp où on va mettre... il a été inauguré en Afrique dans les guerres coloniales...
Dans les
premières guerres coloniales africaines au début du XXe siècle.
C'est à Cuba en 1898.
Oui, enfin, c'est à la même période. On ne va pas se battre sur 3 ans. Mais le camp de concentration, si j'ose dire, dans les années 30, il est banalisé. C'est pas un mot qui va déclencher une réaction d'effroi
Daniel Schneiderman, les journalistes à l'époque, est-ce qu'ils n'avaient pas les moyens de comprendre ce qui se passait parce qu'on ne pouvait pas prévoir la solution finale? Est-ce qu'ils utilisaient des subterfuges? Est-ce qu'ils voulaient se convaincre? Parce que ça aussi, vous le montrez au travers d'extraits d'articles, il y a une propension dans la nature humaine à vouloir se rassurer.
Oui, c'est vrai. Mais la presse, elle est soumise, si vous voulez, à des exigences contradictoires. À la fois, elle est plus ou moins obligée de vendre de l'inquiétude, parce que l'inquiétude et l'angoisse font vendre. Et en même temps, il y a dans la nature humaine des forces qui vous poussent effectivement à vous rassurer. Et puis, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est irréductible à tout. C'est que, effectivement, dans les années 30 et jusqu'en 41-42, l'extermination de masse, elle est juste inimaginable. Il y a un livre d'une historienne américaine qui s'appelle Deborah Lichtstadt, qui s'appelle Beyond Belief, au-delà de l'imaginable. Vous savez, quand on est, on parlait du point Godwin, quand on est, qui que ce soit, un citoyen ou un journaliste, quand on est confronté à une situation, on a toujours une tendance à vouloir la rattacher à une situation antérieure déjà connue. C'est rassurant. Bon, il se trouve que là, pour la première fois, les journalistes sont devant, à partir de 41, hein, mélangeons pas, sont devant une situation qui ne se rattache à aucune expérience antérieure de même ampleur.
Alors justement, par exemple, vous expliquez qu'en novembre 42, Daniel Schneiderman, au cours d'une conférence de presse, on affirme que 2 millions de Juifs ont déjà succombé dans le cadre d'une campagne d'extermination, et vous dites qu'il n'y avait qu'une demi-douzaine de journalistes qui assistaient à cette conférence de presse, dont le New York Times, d'ailleurs, n'avait pas jugé intéressant d'assister.
Ben, le New York Times, ce qu'il faut voir, c'est jusqu'à la fin, si vous voulez, il donne en brève, en page 12, des déportations de masse dans l'Europe occupée par les nazis. On apprend dans des brèves que 75 000 habitants de tel pays, de telle ville ont été déportés. Et la conférence de presse dont vous parlez, ça se situe dans ce contexte-là. Il y a d'ailleurs un journaliste qui y assiste et qui sera interrogé après la guerre et qui très honnêtement dira « bah oui, j'y suis allé ». Est-ce que je l'ai entendu ? Oui, je l'ai entendu. Est-ce que je l'ai cru ? Ben, je l'ai cru à moitié. Il y avait une part de moi qui se refusait à le croire. Quand Karski rencontre le juge américain à la Cour suprême, le juge Frankfurter, ce qui est un moment très fort qu'il raconte ensuite dans le film de Lanzmann. Frankfurter, qui est juif, qui a été nommé à la Cour suprême par Roosevelt, Frankfurter lui dit... Frankfurter donne l'impression qu'il ne le croit pas. Et Karski lui demande « Mais vous ne croyez pas ?» Karski lui demande « Vous croyez que je mens ?»« Non, je ne pense pas que vous mentez. Mais quelque chose en moi se refuse à vous croire. »
Annette Becker.
Je crois qu'il faut faire très attention au témoignage d'après et au témoignage de première main. Le récit de Karski a été dit et redit un certain nombre de fois. Et dans son livre de mémoire, qu'il écrit en temps réel, il dit exactement cela. Il me croyait, mais ce n'était pas possible dans la mentalité de l'époque de se rendre compte de cela.
Et c'est Qu'est-ce que ça veut dire, Annette Becker ?
C'est ça là qui me semble le plus important. Je voudrais citer Marc Bloch. En 1921, Marc Bloch qui parle de la Première Guerre mondiale. Tout se passe comme si la plupart des hommes circulaient les yeux à demi fermés au milieu d'un monde extérieur qu'ils dédaignent de regarder. Ce grand historien a compris depuis la Première Guerre mondiale ce que vous êtes en train de dire. Cela ne veut pas dire que les journalistes ont mal fait leur travail, certains oui, mais vous en avez la pleine presse britannique et américaine, la presse juive, mais pas seulement, de détails extrêmement précis.
Et la presse juive, c'est-à-dire ?
Eh ben,
la presse en yiddish.
En yiddish.
Mais alors, qui a été imprimée depuis.
En anglais. Les plus grandes autorités des différents pays, l'Angleterre et les États-Unis, étaient parfaitement au courant. Les États qui étaient déplacés en Angleterre, évidemment, la Pologne, la France, de Gaulle, étaient parfaitement au courant. Mais c'est pas parce qu'on est au courant, un, qu'on peut comprendre ce qui se passe, et deux, qu'on peut intervenir dans une guerre mondiale. Et c'est bien ça, la tragédie des Juifs. Et quand Auschwitz s'est ouvert, réellement, au cours de 1942, eh bien, il y a déjà 2 millions de Juifs qui sont morts. Et ces 2,5 millions on les a pas vus parce qu'on n'a pas voulu les voir.
Bon, Daniel Schneiderman.
Je crois que les dirigeants savent beaucoup de choses. En effet, les dirigeants alliés ont beaucoup de rapports des services secrets qui leur disent beaucoup de choses. Mais ces choses ne se retrouvent pas dans la presse.
Mais si elles se retrouvent dans la presse, c'est faux ce que vous dites, monsieur.
En bref, en page 12. Et si vous voulez, quand vous lisez, vous lisez votre journal, vous lisez en bref, en page 12, il s'est passé quelque chose d'atroce, vous êtes dans la dissonance cognitive totale. Vous dites, mais attendez, on est en train de me dire qu'il s'est passé un truc horrible et on le met en page 12. C'est donc que c'est pas si horrible que ça. C'est donc que les journalistes...
Vous êtes allé regarder le New York Times, vous êtes allé regarder les
unes. Ah, mais j'ai regardé toute la collection du New York Times qui est en ligne depuis... Il y a quasiment pas de unes. Et je vais vous dire quand il y a des unes. Il y a des unes sur quand une institution officielle se mêle de l'affaire. Quand il y a par exemple une déclaration du pape sur l'extermination, quelle qu'elle soit, là c'est à la une. Quand le gouvernement américain d'une manière ou d'une autre prend une initiative ou dit quelque chose, là c'est à la une.
Il y a des informations très importantes qui ne sont pas comprises.
On parle d'une période de plusieurs années, si vous voulez, et les unes se comptent sur les doigts des deux mains. Le 17 décembre 1942, quand enfin les alliés font une déclaration solennelle commune disant « oui, il y a une extermination et les responsables devront payer après la guerre », en effet, le New York Times la met sur deux colonnes à droite à la une. Deux colonnes sur six. Voilà. Et dès le lendemain, si vous voulez, il n'y a plus rien. Ce qu'il faut comprendre aussi, à partir du moment où on est en guerre, c'est-à-dire à partir de 39 ou de 41 pour les États-Unis, c'est que, alors là, c'est pas de la faute des journalistes, si j'ose dire, mais les informations sur la guerre écrasent tout le reste. Les informations sur les fronts, le front du Pacifique, le front du Moyen-Orient, le front russe.
C'est bien ce que j'ai dit depuis le début, c'est la guerre qui l'emporte.
Puis le front, le front de Normandie écrase Auschwitz. C'est à partir du moment où la guerre a éclaté, n'a plus aucune chance.
Vous parlez d'Auschwitz parce que vous êtes français et que pour les Français, il y a une compréhension extermination des Juifs égale Auschwitz. Pour l'ensemble des Juifs européens, bien avant Auschwitz, il y a l'extermination directe. Et les messagers qui ne sont pas compris, qui ne sont pas entendus, viennent dire à ce moment-là, c'est ce qu'on a entendu de Karski tout à l'heure, nous sommes en train de mourir. Et ils ne le disent pas en 1945, ils le disent en 1942, ils le disent très nettement, dans la presse.
Annette Becker, on dit la même chose tous les deux. Est-ce que Karski est repris dans la presse de l'époque? Non. Personne ne reprend Karski dans la presse de l'époque.
Les images apportées par Karski sont reprises dans la presse de l'époque, dans la presse britannique. Parce que n'oubliez pas qu'il va aux États-Unis comme accro seulement en 1943. C'est en 1942, dans la presse britannique, que l'on a ces images du ghetto de Varsovie et qu'il y a des manifestations monstres dans les rues de Londres. Donc c'est pire ce que vous dites. On savait et on n'a pas cru. C'est bien pire que ce que vous dites.
Un mot de conclusion.
Je crois que dans ce genre de discussion enflammée, je crois qu'il faut éviter le pronom indéfini « on ». On savait. Qui est « on » ? Je veux dire, je crois qu'il faut distinguer, parce que le degré de connaissance n'était pas du tout le même, si vous voulez, selon qu'on parlait des dirigeants alliés, selon qu'on parlait des grands patrons de presse, selon qu'on parlait des populations des pays en guerre. Le degré de connaissance n'était pas du tout le même. Et je pense qu'une des grandes sources de malentendus, si vous voulez, sur ce débat, ça fait des dizaines d'années qu'on a ce débat, qu'est-ce qu'on savait, etc. Le premier mot à bannir de nos discussions, surtout ici sur France Culture, si on peut essayer, surtout ici au rendez-vous d'Histoire de Blois, c'est « on ».
Un mot de conclusion, Annette Becker.
Je crois que quand je disais « on », je voulais dire les populations britanniques et américaines qui étaient des pays qui n'étaient pas encore avec une presse censurée. Et la presse libre des États-Unis et de l'Angleterre ont rendu compte sans se rendre compte de quoi ils rendaient compte.
Ah, on peut se retrouver sur ce, point.
Se retrouver sur ce point. Votre livre, Annette Becker, Messager du désastre, Raphaël Lemkin, Yann Karski et les génocides, est publié chez Fayard. Daniel Schneiderman, Berlin, 1933, La presse internationale face à Hitler, c'est aux éditions du Seuil. Nous sommes en direct au 21e rendez-vous de l'histoire de Blois et Mathilde Serrel, vous êtes à Paris en studio.